Ramadan, une émission présentée par Badia Haddad, réalisée par Mohamed Toualbi, dimanche, lundi et mardi de 11h à midi sur Radio Alger Chaîne 3.
Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à vous sur les ondes positives de la radio algérienne, Radio Alger Chaîne 3. Vous êtes bien évidemment dans Carnet de Ramadan, un programme dédié exclusivement au mois béni de Ramadan, dans sa dimension sociale, sociétale, comportementale et quotidienne. Aujourd'hui, dimanche 15 mars, à quelques jours de Eid al-Fitr, nous faisons un focus sur la semaine de sensibilisation organisée par le ministère de la Santé au sujet de la bonne alimentation durant les derniers jours de Ramadan et probablement l'Eid et même au-delà, parce que vous le savez bien, manger nous permet de bien vivre et surtout de bien vieillir. Nos invités vous seront présentés dans quelques minutes, mais en attendant, mettez-vous à l'aise et préparez-vous pour une heure d'éducation à la bonne alimentation, et cela sur la meilleure des stations, Radio Alger Chaîne 3.
Salam, tu es là. J'aimerais tant parler avec toi, comme avant, sous ce vent chaud qui m'enlace. Je voudrais que tu respires mes mélodies qui s'entrelacent. Si seulement en hurlant mes mots puissants, tu pouvais me revenir. Tu m'as dit, du haut de ce rocher, coûte que coûte, je dois continuer. Maintenant, c'est pourtant parce que je ressens. Reviens et rappelle-moi nos vérités d'avant. Si souvent, oui, je sais, nous différons. Mais à présent, je voudrais que tu saches, Imma, العائلة تفك من غير وما نسوى. صبرتي وشريتي علمتيني كيفاش نشوف الدنيا. Relève-toi, sûrement tu me diras. Moi, je ne te vois plus. Reste encore. J'ai besoin de te dire que ce jour-là, sur ton lit, belle comme je sais, tu as su afficher ce beau sourire, moi malgré ta souffrance, parlons-en, tu me le dois. Langage d'innocence propre à toi. Ok, je sais, tu dois y retourner. Ta réponse, c'est une vérité. Je comprends mieux qu'avant ton affection. On me disant ces choses rien qu'avec tes yeux et moi. Aujourd'hui, pardonne-moi tout simplement, comme avant, car tu sais que je t'aime, Imma. سلعة لتحك من غير وما نسوى صبرتي وجريتي علمتيني كيفاش نشوف الدنيا
Voilà, Salam, un morceau d'anthologie magistralement interprété par Kerima Nayut Yimma, un hymne pour toutes les mamans, ces êtres de lumière. Ces êtres de lumière qui sont pour leurs enfants une patrie, un ancrage, une armée par leurs prières que Dieu subhanahu exauce fatalement. Alors que Dieu rallonge la vie de toutes les mamans, Allah yarham toutes nos mamans décédées et... je suis certaine qu'elles sont au paradis. Alors, au nom de la radio Chaîne 3 et au nom de tous mes collègues et amis, nous présentons nos sincères condoléances à Badia Haddad suite à la perte de sa chérie, Tata Rabia Haddad. Adamallahu ajrakum wa askana hal janna, que Dieu l'accueille dans son vaste paradis. Et soit aux côtés de la famille qu'il apaise leur peine et leur donne toute la force nécessaire pour continuer de vivre. Et comme le disait Kerima Nayit, à l'instant, coûte que coûte, je dois continuer. Il est 11h11 sur Radio Alger Chaîne 3 et je remplace Badia Haddad aujourd'hui, Bouchra Yahya. Je remercie toute l'équipe qui nous accompagne, Imad à la console technique, Ikram à la régie d'antenne et Mohamed Toualbi. Alors comme annoncé dans le sommaire, nous parlons aujourd'hui de nutrition et il n'est jamais trop tard de s'initier à la bonne alimentation. La nutrition qui est aujourd'hui au cœur de la bonne santé et tous les spécialistes le martèlent et réajustent leur protocole thérapeutique en fonction de cette discipline. Alors merci à nos amis d'avoir accepté notre invitation. Professeur Haddad Assia, cardiologue au service de chirurgie cardiaque à l'EHS Mohamed Abdelrahmani, ex-lecastor à Bir Mourad Raïs. Bonjour, Sahar Ramdanek.
Allah Yisselmek. Bonjour, Madame Bouchra, Sahar Ramdanek aussi. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Merci pour l'invitation.
Ravie
d'être
parmi
vous. Voilà, merci. Et à mon tour, je présente mes sincères condoléances à Madame Badia Haddad.
Et voilà. Et à Texaha. Notre deuxième invitée dans carnet de Ramadan aujourd'hui, c'est docteur Boudoucha Houda. Elle est hépato-gastro-entérologue et elle va nous parler justement de cette fameuse relation ou l'impact de ce que nous mettons dans notre bouche, l'impact de la sélection de ce que nous mettons dans notre assiette sur notre santé. Madame docteur Boudoucha Houda, vous êtes médecin libérale. Bonjour, Sahar Mdanek.
Bonjour, Sahar Mdankom, à vous et à toute l'équipe de la radio Chaîne 3 et
merci
à nos chers auditeurs. Je tiens à présenter mes condoléances à Madame Badia Haddad. Rabbi rahmaha wa ja'alha fil jannah, inshallah.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, il va s'agir de nutrition, d'alimentation. Alors, je vous pose la première question. Vous avez dû recevoir des patients tout au long de Ramadan. Qu'est-ce que vous avez constaté? Quelles ont été vos observations? Y a-t-il eu beaucoup de malades venus consulter à cause de ce qu'ils ont pu manger durant l'Oftar?
Oui.
Docteur Boudoucha.
Alors, pour la gastro-entérologie, les premiers jours de Ramadan, c'est la transition entre l'Iftar et la période de jeûne qui fait que les malades se plaignent de cette modification. On a un passage de 3 à 4 repas par jour à deux repas, c'est-à-dire le suhoor et le ftour. Et durant les deux, trois jusqu'à la première semaine, on a des plaintes par rapport à la digestion, par rapport au transit beaucoup plus. Et par contre, la deuxième quinzaine et la fin de Ramadan, c'est plutôt les ballonnements, la constipation. Et aussi les problèmes des maladies chroniques avec les écarts de régime, la prise de poids et voilà.
Ou la perte de poids aussi.
C'est rare. De nos jours, c'est plutôt l'obésité qui pose problème de santé publique.
D'accord. Alors, professeur Haddad Assia, vos observations par rapport à ces trois semaines, quatre semaines de Ramadan.
Voilà. Effectivement, comme a dit Dr Boudoucha, c'est la transition qui fait qu'il y ait des problèmes durant les premiers jours de Ramadan. Nous, par exemple, généralement, c'est des cardiopathes. En majeure partie, on parle des binômes, donc hypertendus diabétiques. Donc déjà, les malades avant Ramadan, déjà, ils se préparent par rapport à leurs médicaments. Donc les horaires de prise des médicaments, il y a des malades qui sont sous 3 ou 4 médicaments. Donc ils viennent déjà consulter avant pour nous dire est-ce qu'on peut décaler nos médicaments, est-ce qu'on peut jeûner quand même. Et Ramadan, c'est vrai que théoriquement, le jeûne, il a démontré qu'il a des bénéfices sur le système cardiovasculaire, sur le système de santé, à condition que la rupture de jeûne donc soit faite d'une façon convenable, c'est-à-dire il faut pas manger n'importe quoi en grande quantité et choisir ce qu'on mange. Donc malheureusement, donc il y a certains patients, donc malgré ce bénéfice de ces heures de jeûne, donc quand ils rompent leur jeûne, donc ils mangent beaucoup de gras. Donc vous savez, donc nos traditions, il y a toujours des fritures, des boulettes, donc des repas gras, donc des sucreries, donc entre également après le ftor. Donc ceci effectivement, donc on observe des fois des déséquilibres sur le plan tensionnel, des déséquilibres glycémiques chez les diabétiques. Et comme elle a dit, docteur Boudoucha, c'est censé avoir un effet positif en perdant du poids, mais si on fait pas attention à ce qu'on mange après le ftor, c'est l'effet inverse. Donc c'est pas l'effet attendu, c'est l'effet inverse. Il y a une prise de poids et tout ça, donc ça retentit négativement donc sur le système cardiovasculaire en général, donc sur le système de santé en général. Et comme je vous ai dit, c'est les hypertendus diabétiques, des pics tensionnels, des écarts glycémiques, etc.
Donc, au vu de toutes ces remarques donc que vous venez d'exposer, professeur Haddad Assia et docteur Boudoucha Houdin, la conclusion est claire et nette et précise, c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas manger, nous ne faisons pas attention aux équilibres alimentaires ni aux combinaisons alimentaires. Assez souvent, d'ailleurs, on parle en parlant des aliments, on se demande, on se pose la question, est-ce que cet aliment est gras? Bon, pas chez beaucoup, hein, parce que le constat est là. Est-ce que l'aliment est gras? Est-ce qu'il est sucré? Est-ce qu'il est trop salé? Mais rarement, on se pose la question, est-ce que tous ces aliments sont bien associés ou forment une bonne combinaison? Quelle est l'importance de la bonne combinaison dans notre alimentation, mesdames?
En réalité,
il
faut savoir que sur plan alimentaire, il faut faire attention à la quantité, mais aussi à la qualité des aliments. Et comme vous l'avez dit, c'est la combinaison des aliments qui est importante.
Peut-on l'expliquer, pardon?
Voilà.
Qu'est-ce qu'une combinaison alimentaire, une bonne combinaison?
Alors, la pyramide idéale pour notre assiette a été récemment changée. On a toujours dit qu'il y avait tout ce qui est sucre lent en grande quantité, puis les viandes, puis vous avez les fruits et les légumes. Actuellement, c'est le contraire. Il faut que notre assiette, la moitié de notre assiette, doit contenir des fruits, des légumes,
beaucoup de crudités,
riches en fibres, et vous avez la portion protéique, bien sûr, en dehors des contre-indications chez les malades qui présentent des insuffisances rénales ou un problème hépatique qui rend la ration riche en protéines assez dangereuse. Et enfin, vous avez une petite quantité de sucre lent, d'amidon que doit contenir notre assiette. Maintenant aussi, le rythme de prise de sucre, ou bien le moment, l'horaire
parlez-vous, docteur Boudoucha?
Du sucre rapide. Alors, le sucre rapide, il faut
le
prendre
après. Donc, le sucre industriel, chimique.
Oui. Mmh. Même le fructose, donc, par exemple, les dattes. On a dans la tradition de rompre le jeûne avec un peu de dattes et de l'ben. Il faut savoir que les dattes, c'est un sucre qui est rapide. Donc prendre une date, c'est pas méchant, mais si vous allez prendre plus pour des gens qui souffrent de diabète et de déséquilibre glycémique, une insuline résistance, ça fait monter la glycémie rapidement. Donc là, il faut parler de l'index glycémique. Ouais. Quand vous avez un sucre rapide, même si le nombre de calories est le même avec une assiette de riz ou bien de pommes de terre qui n'est pas très très bien cuite, ou bien un pain qui est complet, riche en fibres, parce qu'il faut savoir que les fibres réduisent l'absorption du sucre. C'est-à-dire, même si on a le même nombre de calories ou bien de sucre, la contenance en sucre dans un aliment, le temps de libération de sucre, il diffère d'un aliment à l'autre. C'est ce qui fait la différence en matière d'index glycémique. Oui. C'est-à-dire, si vous prenez un sucre rapide, le pancréas, il est alarmé. Il va y avoir une sécrétion importante d'insuline et au long cours, on va fatiguer notre pancréas. Et chez les gens déjà qui font de l'insulinorésistance ou un manque au contraire de sécrétion d'insuline, ça garde un chiffre glycémique ou bien une glycémie dans le sang qui est élevée, ce qui est délétère pour les vaisseaux et pour les différents organes. Par contre, si vous prenez un sucre long, une banane, un pain complet, vous prenez un sucre avec beaucoup de fibres, ça ralentit l'absorption de sucre et donc la glycémie veineuse ou bien le taux de sucre dans le sang, il va être moindre. Voilà. Donc l'association de bons aliments ou bien l'équilibre entre les différentes fractions alimentaires, la ration protéique, glucidique et les fibres est très très importante.
Alors, professeur Haddad Assia, au sujet de cette combinaison alimentaire, un mot là-dessus.
Bien sûr. Ce que je voudrais dire sur ce sujet, que finalement, il n'y a pas d'interdit dans notre alimentation. C'est-à-dire, on est autorisé à manger un peu de tout. Donc, notre corps, il a besoin de sucre, il a besoin de lipides, de protéines, etc. Mais il faut savoir, comme vous l'avez bien dit, combiner et choisir les aliments les plus bénéfiques. C'est-à-dire, par exemple, si on peut manger, par exemple, le gras, il vaut mieux choisir ce qu'on appelle les gras insaturés. Donc, les gras qui sont présents, par exemple, dans les concassés, l'huile d'olive, etc. Si on peut se permettre de manger, par exemple, le jour de l'Eid, donc un morceau de viande rouge, donc veiller donc à lui enlever le gras qu'il y a. Il vaut mieux préférer de le prendre cuit, grillé, qu'en friture et compenser avec des légumes. Maintenant, les recommandations internationales, pour vous dire, Madame Bouchraïa, les recommandations internationales, donc ce qu'elles recommandent, c'est le régime méditerranéen. Donc, on a cette chance on a un pays riche en fruits et légumes. L'huile d'olive, donc c'est le régime qui est recommandé par les sociétés internationales pour la santé cardiaque. Donc beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et récemment aussi, donc par exemple pour les patients hypertendus, eh ben sachez que un régime riche en fruits et légumes, ça fait partie de la prescription. C'est-à-dire quand on donne un traitement pour un hypertendu, donc avant de commencer le traitement médicamenteux qu'il achète en officine, on insiste sur deux points. Donc une assiette riche en fruits et légumes. Donc les fruits, c'est vrai, parfois donc chez les diabétiques, on est obligé de modérer un peu leur consommation, mais les légumes, ils peuvent en manger à volonté. C'est un traitement qui réduit les chiffres de pression artérielle.
Encore une fois, les légumes crus ou bien
de préférence crus, mais
dit,
tout
les
voilà.
Disent que le microbiote n'aime pas trop le cru, les aliments crus.
Vous savez, donc ils disent donc les aliments crus, oui, mais même les cuits. Donc c'est ce que je dis à mes malades quand je leur dis mangez beaucoup de légumes, c'est pas des bouillons là, des soupes de légumes. Mangez les légumes sur toutes, c'est-à-dire comme vous les aimez.
11h23 minutes sur Radio Algérien 3 et dans Carnet de Ramadan. Bien sûr, cette émission est interactive et vous pouvez nous appeler au 021 48 15 15 pour poser toutes vos questions et nos amis présentes sur le plateau seront vraiment heureuses de vous répondre. Alors, continuons sur le sucre et le gras qui sont, paraît-il, les véritables ennemis pour tout le monde.
Pour tout le monde.
Le sucre, je vous en parlais, professeur Haddad, juste avant l'émission, assez souvent, chez le commun des mortels, c'est le sel qui fait augmenter la tension artérielle.
Oui.
Alors que
même le sucre, on va dire, c'est l'ennemi caché. Donc, c'est l'ennemi caché. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire, le fait de manger beaucoup de sucre, donc, ça donne de l'inflammation. Donc cette inflammation, donc elle va attaquer, donc on va dire, ça va attaquer les vaisseaux. Et la tension artérielle, c'est un problème de vaisseau, c'est une augmentation de la pression. Donc le sucre, d'ailleurs, la majorité de nos diabétiques, c'est ce que je dis, donc c'est le couple HTA diabète.
Ouais.
La majorité des diabétiques, ils finissent par devenir hypertendus et l'inverse n'est pas vrai. Donc les hypertendus ne sont pas forcément des diabétiques, mais les diabétiques, ils finissent toujours par devenir hypertendus, et ben à cause de ces effets de ce sucre, donc qui donne de l'inflammation, qui donne de l'athérosclérose, et cette athérosclérose qui prédispose à l'hypertension artérielle, pareil pour le
gras.
Est-ce
qu'on peut prévenir cet état, justement,
bien
professeur
sûr,
Haddad?
Écoutez, donc comment dire, donc la santé est dans notre assiette.
Ouais.
Donc, comment prévenir?
Voilà,
il avait bien dit,
donc,
voilà, plus de 1500 ans. Bien sûr, la prévention est le meilleur moyen. Donc, avant, vous savez, si on arrive à adopter une hygiène de vie, donc une alimentation saine, comme je l'ai dit, riche en fruits et légumes, pauvre en gras, on a oublié aussi point très important, l'activité physique.
Ouais,
donc,
là,
on ne cesse pas de dire, voilà,
alimentation,
mais il faut y associer donc de l'activité physique. Quand je dis activité physique, commençons par la plus simple, c'est la marche rapide. Donc il y a certains qui nous disent
qu'on est obèse, on ne bouge pas,
mais c'est un cercle vicieux. Donc c'est un cercle vicieux, il faut céder par un régime pour essayer de perdre du poids et associer ce régime à une activité physique. Un autre point aussi associé à ces deux-là, c'est l'hydratation.
Oui.
Donc l'hydratation, c'est très important aussi. Donc par exemple, au lieu de prendre des boissons sucrées, donc pensez à boire de l'eau. Donc d'ailleurs le mois de Ramadan, donc c'est un mois où la période de jeûne elle est prolongée entre le ftor et le suhur. Les malades ont tendance à ne pas boire assez et les problèmes de déshydratation, de déséquilibre et tout qui apparaissent. Donc effectivement, on peut prévenir ce que je dis aux malades. Donc on peut rien faire contre notre âge. Donc les facteurs de risque, c'est l'âge, c'est l'hérédité et tout. On peut rien faire contre notre âge, on peut rien faire contre l'hérédité. Mais on peut au moins retarder l'apparition des maladies en faisant attention à notre hygiène de vie, à ce qu'on mange, à faire de l'activité physique, donc bouger, manger bien et beaucoup et s'hydrater. Donc c'est clair que au moins on retardera donc ces maladies là.
Alors mesdames, quelles sont les erreurs qui détruisent notre santé et qui détruisent surtout le microbiote, hein?
Alors pour le microbiote intestinal, il a été incriminé dans la genèse de plusieurs maladies, notamment les maladies digestives, les maladies auto-immunes, c'est-à-dire quand le corps se reconnaît ses propres antigènes, si vous voulez, ou ses propres cellules comme un corps étranger, c'est la cascade de réactions inflammatoires auto-immunes qui va aboutir à tout ce qui est maladie de système. Aussi, vous avez le déséquilibre de la flore intestinale qui est incriminé dans la symptomatologie assez fréquente chez toute la population, c'est le côlon nerveux ou bien la colopathie nerveuse. Mais aussi dans la réaction inflammatoire qui apparaît chez les patients qui ont une stéatose hépatique ou bien le foie gras. Donc le foie, c'est l'usine de l'organisme, c'est le lieu de stockage des sucres sous forme de glycogène, mais après ce sucre composé qui est censé être détruit et libéré dans le sang une fois notre glycémie diminue, c'est-à-dire au moment du jeûne, on est censé libérer du glucose dans le sang pour alimenter les cellules essentiellement nerveuses, mais aussi toutes les cellules de l'organisme à partir de ce glucogène. Mais quand le taux de sucre dans le sang reste quand même élevé, l'excès de sucre, quand on apporte à l'organisme plus qu'il n'en faut, l'excès va être stocké sous forme de gras. Et les cellules, le gras, les lipides composés, donc, vont être stockés. Ils vont, à certains moments, quand un certain pourcentage est dépassé, les cellules vont être étouffées par ce gras. Et chez certains patients, le gras, il n'est pas nocif. Et l'étape de stéatose peut rester.
Excusez-moi de vous interrompre, docteur Boudoucha. Le problème, est-ce réellement le gras ou le type de gras? Parce que le gras, on en a besoin pour notre cerveau, pour tous nos appareils.
Oui. Comme l'a très bien précisé professeur Haddad, les triglycérides et les lipides polysaturés, sont nocifs. Et là, par contre, le gras, le bon gras, le HDL, celui qui protège nos vaisseaux, et tout ce qui est huile d'olive, oméga 3 présent dans le poisson, dans dans les oléagineux, il est bon parce que il est important dans la composition des membranes cellulaires, notamment au niveau du cerveau.
Je ne sais pas si on peut avancer dans l'émission et dire carrément quelles sont ces huiles qu'on devrait éviter.
C'est les fritures, oui. C'est les huiles qui sont hydrogénées. Quand on utilise de l'huile et qu'on le réutilise plusieurs fois, la température, elle va modifier la composition chimique de ces huiles et elles deviennent nocives. Et vous avez aussi margarine, tout ce qui est...
L'huile de palme, est-ce qu'elle est bonne? L'huile non. de tournesol, est-ce qu'elle est bonne
pour la santé?
Tout ce qui
est modifié, tout ce qui est recyclé,
oui.
Quelle
température de cuisson? Est-ce que ça change? Est-ce qu'il y a des variations?
La friture, déjà, elle va augmenter l'apport calorique. C'est-à-dire, si vous allez prendre un poisson, vous allez profiter avec un peu d'huile d'olive, ou bien vous allez carrément le mettre au four, ou bien au air fryer. Voilà, exactement. Donc, vous allez bénéficier des vitamines et des oméga 3 qui sont présents naturellement dans le poisson. Mais si vous allez frire votre alimentation, vous allez faire des nuggets, vous allez faire des frites avec, vous allez augmenter l'apport calorique et vous allez aussi modifier le gras qui est présent, la qualité du gras. Donc au lieu d'avoir des oméga 3, vous allez avoir des huiles hydrogénées et qui sont nocives pour notre santé.
Pour éviter les fritures par exemple, est-ce qu'on peut favoriser la cuisson sur le feu?
Grillade, beaucoup d'herbes à la vapeur.
On va parler de l'importance des herbes et des épices, mais juste après cette petite respiration musicale que nous propose Mohamed Toualbi sur Radio Alger Chien 3. Il est 11h32 minutes.
جبال قلبي اسكان جبال جبتي رجال غير بحر وما حراس يا انسان غيرك ما يا حلالي جوهرك جوهرك عزيزة سمك غالي جوهرك جوهرك سكنا روح البالي شبدي الجمال أنا ملكني جمال شبوك والجبال قلبي اسكان جبال جبتي رجال غير بطل هما حراس يا الغالي يا غيرك ما الحلالي عليك نغير من خلني حادي مساب وتكوني بخير علشان اكون قدر فيك زين كثير ارض بحري تمشي من شافك يا جزاير غيرك ما يا حلالي جوهرك جوهرك عزيزة سمك غالي جوهرك جوهرك سكنة روحي
De Ramadan, c'est votre rendez-vous indispensable pour vous accompagner, vous informer et passer votre mois de jeûne en toute sérénité. Dimanche, lundi et mardi de 11h à midi sur les ondes de Radio Alger chaîne 3.
Sur les ondes de Radio Alger chaîne 3, sur les réseaux sociaux et sur le 021 48 15 15. Alors nous serons heureux de recevoir vos appels et de parler de vos relèvements et de vos questions. Nos amis qui sont présentes sur le plateau seront heureuses de vous répondre et de réagir à vos remarques. Alors nous avons le plaisir de recevoir professeur Haddad Essia, cardiologue au service de chirurgie cardiaque à l'EHS, l'EHS Mohamed Abdelrahmani, ex-lecastor à Bir Mourad Raïs. Et notre deuxième invité, docteur Boudoucha Houda. Boudoucha Houda, hépato-gastro-entérologue. Et pour entamer cette deuxième partie de carnet de Ramadan, j'aimerais insister sur l'impact de notre alimentation sur le déroulement de nos différents organes, sur leur bonne fonctionnalité et sur notre santé. Quels sont les organes qui sont les premiers touchés lorsque notre alimentation fait défaut?
En réalité, tous les organes sont impactés par le déséquilibre alimentaire ou bien la mauvaise hygiène de vie.
Déséquilibre alimentaire, mais il y a aussi un autre point qui est très très important dont parlent les nutritionnistes, c'est le processus de la mastication.
Oui. C'est la première partie de la digestion. C'est la première phase de la digestion. Donc les patients qui mangent vite, déjà, ils ne vont pas avoir une satiété rapide.
Oui.
Parce que l'hormone, elle prend du temps pour être libérée. C'est une réaction chimique.
Le message envoyé au cerveau.
Exactement. Oui. Donc quand on mange, il ne faut pas regarder son téléphone.
Comment ça fonctionne, s'il vous plaît? Expliquez-nous, docteur Boudoucha.
Déjà, en voyant l'alimentation, il y a une réaction de notre organisme, il y a notre cerveau. Donc vous avez la sécrétion d'hormones et vous avez déjà la salive qui commence à couler et vous avez ensuite quand on va prendre l'aliment et on va commencer à le mastiquer, vous avez déjà les enzymes salivaires qui commencent à dégrader le sucre et c'est au moment du passage de ce bol alimentaire vers l'estomac, vous avez aussi la sécrétion acide gastrique qui vraiment elle précède le bol alimentaire, c'est-à-dire dès qu'on voit l'aliment,
vous parlez là du processus chimique de la digestion.
De la digestion. Ouais. Donc quand on voit l'aliment, vous avez l'information qui passe à notre cerveau, c'est involontaire, ça fait partie de ce qu'on appelle l'innervation végétative ou tout ce qui est réflexe. Donc on peut pas commander ces cette cascade de réactions. Et je vous ai dit déjà, en voyant l'aliment et en mangeant ou en commençant la mastication, vous avez la sécrétion acide qui commence à se produire pour se préparer à recevoir le bol alimentaire. Ensuite, vous avez cette acidité elle-même qui va stimuler les autres phénomènes de la digestion. Vous avez une vésicule qui se vide pour les acides biliaires.
Rappelez-vous de votre idée, docteur Boudoucha, parce que c'est un processus très important pour la digestion et de la bonne santé. Nous recevons Smaïl. Allô, bonjour, notre premier auditeur dans Carnet de Ramadan de ce dimanche 15 mars. Smaïl, bonjour.
Bonjour madame.
مرحبا بك صح رمضانك.
حرمضانكم.
الله يسلمك. اسماعيل, vous nous appelez d'où s'il vous plaît?
Alger.
Alors Smaïl, vous voulez faire des remarques ou poser une question directe pour nos amis donc invités?
Non, c'est juste une proposition.
Oui, allez-y Smaïl, je vous écoute.
Pas de question. En fait, il y a le jeûne. لازم الواحد يعرف واش ياكل.
Oui. يعطيك صحة اسماعيل, كونتينيو
فهمتيني. ومام ولو رمضان هذا سيرتو لو سومي, الناس ما ترقدش ما تعرفش تاكل وتاكل السكر, وتا لازم زيرو سكر. هذه الاولى سكر الابيض هذا لازم زيرو سكر.
Vous, par exemple, est-ce que je peux vous poser une question directe, Smaïl? Comment s'est déroulé pour vous ce mois de Ramadan? Comment vous mangiez? Quelle était votre hygiène de vie? Hygiène alimentaire?
Il faut bien manger. Il ne faut pas trop manger. Il faut manger
Merci beaucoup Smaïl, yatek saha, et merci pour votre appel.
C'est moi.
Mbrouk, allez, au revoir. Alors mesdames, une remarque par rapport aux commentaires de notre ami Smaïl?
Alors effectivement, donc on parle depuis tout à l'heure d'alimentation, mais aussi le sommeil. C'est vrai que c'est une partie prenante dans notre hygiène de vie. Quand on dit hygiène de vie, c'est alimentation, activité physique, hydratation, sommeil. C'est clair. C'est clair qu'on avait dit au début de l'émission qu'il faut savoir choisir ce qu'on mange quand on rompt le jeûne, parce qu'il faut pas manger n'importe quoi. Zéro sucre ou sucre artificiel, oui, mais on a besoin quand même de sucre. Fruits. Donc les fruits, par exemple, voilà, il faut choisir les sucres, le fructose qu'il y a dans les fruits, c'est une bonne
Vous êtes pour
ressource.
Les sodas, les
Non, jus, pas du tout, du tout, du tout. Donc, c'est ce qu'on dit toujours. Donc, il vaut mieux prendre un fruit ou un jus de fruits nature, mais les sodas et tout, pas du tout. Donc, il faut s'hydrater. Donc, j'en cesse de dire.
Beaucoup
donc, une
d'eau.
Bonne hydratation, prendre de l'eau. D'accord. Et pour le sucre, voilà, choisir des fruits, c'est
donc
c'est
enlever
plus...
toutes ces bouteilles jaunes,
c'est clair,
vertes,
c'est
rouges,
clair.
Bleues,
vous savez,
toutes
c'est
ces
ça contient que du sucre blanc, c'est l'ennemi numéro un. Donc, une bonne hydratation des fruits nature, vous savez, le sucre qu'il y a dans les fruits, c'est largement suffisant.
Alors, nous prenons un autre appel, c'est notre ami Abdelrahman. Sbah al khair, bonjour Abdelrahman. Alors, Abdelrahman, quelle est votre question?
Une petite question, s'il vous plaît. Parce que moi, je suis un grand... je suis diabétique déjà, de type 2.
Oui.
Et je suis pas comme amoureux du pain. Donc, je prends tout le pain de seigle, le pain d'orge.
J'en connais des amoureux du pain.
C'est la majorité de la population algérienne.
J'en connais des amoureux du pain, bien doré, bien mhammar, croustillant le matin. Alors comment vous faites, comment vous gérez cette passion pour le pain, Abdelrahman?
Je suis esclave du pain.
À ce point. Et comment vous gérez votre maladie? Est-ce que vous avez suffisamment d'informations pour bien accompagner votre diabète, Abdelrahman?
Sur ce plan-là, j'essaie de faire le maximum pour manger beaucoup de légumes. Déjà, oui. Moi, j'aime pas trop la viande rouge. Je
oui,
suis pas
bravo,
très,
bravo. Excellent sur ce point. Nos amis médecins vont nous dire si c'est bon ou pas. Mais sur le...
La marche.
Oui, oui, mais est-ce que vous gérez bien votre maladie, mis à part votre passion pour le pain?
Mais oui, j'essaie de faire le maximum. De temps en temps, je fais un écart parce que... Donc, oui. J'ai avec la petite envie...
Vous abusez? À ce moment-là, vous abusez?
Non.
Votre glycémie, par exemple, Abdelrahman, votre glycémie, une heure avant l'Aden, avant l'Iftar, elle est à combien?
Oh, normalement, elle est à peu près à 1,10.
Ça va.
Parfois 4,15. Parfois, ça dépend des journées, ça dépend de l'activité, mais je suis entre 95 et 1,10, 1,15 à peu près.
Et votre glyqué, je ne sais pas si la glycémie des 3 mois.
Oui, la glyquée, je suis à peu près à une moyenne de 6,5.
Ah, parfait, oui.
Eh bien, très bien. Dans l'objectif. Très bien. Est-ce que vous avez des conseils pour nos amis diabétiques, Abdelrahman? J'espère que vous ne leur conseillerez pas de prendre du pain. Hein. Abdelrahman?
Moi, c'est mon péché.
Pas mignon. Pas du tout mignon. Sinon, des conseils pour nos amis, Abdelrahman?
S'il vous plaît, ma question, je voudrais pas savoir, parce que quand je prends du pain de seigle, surtout le pain de seigle et tachère et tout ça,
oui.
je constate que ma glycémie m'a flash par rapport au pain.
Est-ce que vous l'avez vérifié?
Bonne observation.
Oui, j'ai vérifié, oui. Okay. Oui, j'ai vérifié.
D'accord.
Et ma question, est-ce que... Il paraît que on me dit que le khoubz tal kharoub.
Oui, ça va.
Il y a pas meilleur. Ça, je ne sais pas. Donc, c'est ma question. Voilà.
Très bien. Je vous remercie, Abdelrahman. Vous allez avoir la réponse tout de suite. Alors, mesdames, professeur Haddad ou docteur Boudoucha.
Alors, par rapport au pain, c'est le problème de 80% des Algériens parce qu'on a une habitude alimentaire.
Même ceux qui ne sont pas diabétiques.
Oui. Nremso, depuis l'entrée, qu'elle soit chaude ou froide. Jusqu'au dessert, même le hamel halouf fi Ramadan, on a tendance à nremso avec la sauce sucrée. Alors que c'est...
On peut en guérir, docteur Boudoucha?
Oui. Les restrictions, les interdictions, c'est pas bon.
C'est pas bon.
Voilà.
C'est
parce que tout ce qui est interdit,
il est désiré.
Voilà. Oui. Donc, il faut réduire. Chez les patients qui ne sont pas en surpoids, ou bien chez les patients qui n'ont pas de maladie chronique, un peu de pain, ça tue pas.
Un peu de pain,
c'est-à-dire pas plus de 50 grammes. D'accord. Donc, un petit bout de pain. L'idéal,
c'est... Un petit bout de pain de 4 cm, 3 cm.
10.
Ça dépend.
7-8.
Voilà.
Ouais.
Donc, 7-8, pas plus.
Et puis, quel pain?
Voilà. Et l'idéal, c'est le pain complet. Pourquoi le pain complet? Il contient pas moins de sucre, mais il contient
des fibres
qui vont ralentir l'absorption du sucre contenu dans ce pain.
D'accord.
Donc, n'imaginez pas que si vous prenez une baguette de pain de seigle, vous n'allez pas avoir tant de calories ou bien tant de glycémie, c'est-à-dire tant de calories surtout. Mais la bonne chose, c'est que le pain de seigle et le pain complet contiennent des fibres. Alors que la farine blanche, tout ce qui est raffiné, tout ce qui est modifié, il contient du sucre rapide.
Il faut éviter les trois blancs comme le martel docteur Barly que nous saluons, président de l'ISOM, la Société Internationale de Médecine Orthomoléculaire. Les trois blancs, le sel, le sucre et la farine raffinée. Voilà. Exactement. Oui.
Par rapport au pain d'orge, l'orge, il contient, c'est deux molécules de sucre, c'est du maltose. Donc si vous voulez, entre les deux, entre un pain avec du sucre blanc, de la farine blanche, et le pain complet qui contient des fibres ralentissant l'absorption.
Le pain au caroub, docteur Boudoucha.
C'est le meilleur. C'est toujours par rapport à la contenance en fibres et à cet index glycémique.
Oui.
Mais il faut savoir que la quantité est très importante parce que les patients qui souffrent d'un déséquilibre glycémique, qui sont en sédentarité, qui ont un syndrome métabolique, c'est-à-dire des chiffres qui il n'est pas encore hyper tendu, mais il a des chiffres qui s'élèvent. Vous avez un déséquilibre glycémique avec des glycés qui commencent à s'élever et avec un indice d'OMA, de l'insulinorésistance qui est important sans être déclaré diabétique. Quelqu'un qui a du foie gras sans avoir une cirrhose hépatique ou une stéatohépatite, c'est des malades chez qui il faut agir pour retarder et éloigner l'apparition des maladies chroniques, diabète, tension et autres.
Très bien. Alors, je vous interromps, docteur Boudoucha. Nous profitons de cette aubaine d'avoir nos amis auditeurs en direct avec nous et focus donc sur la Vox Populi. Nous recevons tout de suite Bilal. Bonjour.
Oui, bonjour madame.
Sbah al khair, saha ramdan koum, wa alaykoum salam. Alors, Bilal, vous nous avez suivis depuis le début de cette émission?
Oui, je suis le sujet. C'est un sujet très intéressant.
Oui.
D'ailleurs, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir pensé à ce sujet, surtout
merci en ce moment. Merci à Badia Haddad, surtout, oui. Alors, vos relèvements, Bilal, s'il vous plaît.
Oui.
Allez-y, vos relèvements.
Oui, j'ai juste une question pour les médecins. Moi, j'ai un problème, surtout pendant le Ramadan, c'est que j'ai toujours ce problème de ballonnement et de gonflement juste pour le Ramadan. Donc, en dehors de Ramadan, j'ai pas ce problème. Donc le problème pour Ramadan, c'est que même si je mange un tout petit peu, par exemple une salade ou la même juste la soupe, j'ai un ballonnement et j'ai un blocage au niveau de l'estomac. Et donc oui. Du coup, je mange rien jusqu'au lendemain. Donc ce blocage, il persiste même pendant le lendemain la journée.
Oui, donc vous êtes mal la nuit et le lendemain.
Effectivement, même si je mange que la soupe. Et je fais la marche le soir.
La soupe, quelle soupe vous prenez, Bilal, s'il vous plaît?
Pardon, oui.
Quelle soupe vous prenez et puis vous l'agrémentez avec quoi? Du citron?
Pardon?
Quelle soupe vous prenez, Bilal, s'il vous plaît?
Le sucre?
Quelle soupe?
Une sorba.
Sorba harira.
Une soupe sorba harira, effectivement.
Oui, avec quoi? Vous mettez du citron dedans?
Si c'est harira, oui, je mets un peu de citron, oui.
D'accord. Je crois qu'on a mis le doigt sur... Oui, allez-y.
Même si je mange une salade, j'ai essayé de manger juste une salade et c'est le même problème. Le problème, c'est que ce problème, Dani, ça fait 2-3 ans, j'ai remarqué ça.
Oui.
Pendant Ramadan. En dehors de Ramadan, j'ai pas ce problème. C'est pour ça que je voulais poser cette question.
Merci beaucoup à vous, Bilal.
C'est le lien avec le jeûne.
Merci infiniment. Nos médecins vont vous répondre tout de suite. Nhar kembrouk. Allez, au revoir, Bilal.
Merci beaucoup.
Mesdames. Docteur Boudoucha, professeur Haddad.
Oui. Alors, concernant le ballonnement durant le mois de Ramadan, avoir un petit ballonnement les premiers jours, c'est la transition et le changement. Le corps, il n'est pas encore habitué à ses habitudes alimentaires. Oui. Mais si ça persiste et que ça devient handicapant, il faut consulter le médecin parce que peut-être ce malade, il cache une colopathie fonctionnelle qui est aggravée par le jeûne. Un déséquilibre de la flore intestinale parce que c'est la flore intestinale qui est responsable de cette production de gaz qui est la source de ballonnement. Quand on
donc,
mange,
Bilal, il faut qu'il aille consulter.
Oui.
Chez un spécialiste ou chez un généraliste.
Oui. S'il ne va pas résoudre le problème, lui-même, il va l'orienter vers un gastro-entérologue.
D'accord.
Pour diagnostiquer.
Suivre le processus normal, le processus médical.
Exactement.
D'abord le PSP du quartier.
Le médecin de famille. Ensuite, si le problème persiste ou s'il y a des anomalies sur le bilan, on n'a pas demandé à Bilal s'il avait un problème de transit, de constipation, parce que le transit, c'est très important. Quand les selles persistent longtemps dans notre tube digestif au niveau du côlon, ces matières vont être l'objet de dégradation et de fermentation par les bactéries qui se trouvent naturellement dans notre intestin. Et si la contenance en bactéries, c'est-à-dire il y a une multiplication accrue de ces bactéries, il faut savoir qu'ils se nourrissent du sucre. Donc si vous prenez beaucoup de sucre, beaucoup de pain et beaucoup de fromage fermenté ou autre, vous allez nourrir cette mauvaise flore. Et donc ça va gonfler aussi. Il parlait de shorba. La shorba frique aussi, c'est une source de ballonnement. C'est une source de sucre avec le.
Alors là, si vous rajoutez du citron.
Bon, le citron, il faut pas imaginer que bon, le citron.
Les biochimistes et les nutritionnistes disent que c'est mauvais.
Ça dépend comment
j'entendais vous le professeur Ossedir.
Comment vous le prenez?
Oui.
D'accord. Donc une boisson du Vichy avec un peu de citron, c'est pas mal pour remplacer quelqu'un qui a toujours pris des sodas.
Chorba avec citron.
Non.
Déconseillé?
Oui, parce que déjà il y a la tomate qui est acide. Ensuite vous allez rajouter. Et n'imaginez pas que c'est l'idée reçue. N'imaginez pas que mettre du citron sur le gras, ça va le fondre ou bien ça va empêcher son absorption.
Parce qu'on dit que le citron stoppe la sécrétion d'enzymes importants pour la digestion. Alors mesdames, nous nous rapprochons doucement mais sûrement de la fin de cette émission d'aujourd'hui. Nous sommes à la veille d'un rendez-vous grandiose pour les Algériens, pour tous les musulmans.
C'est l'aide.
Qui dit l'aide dit beaucoup de gâteaux, beaucoup de sucre.
Oui.
Quels sont vos conseils en quelques minutes,
d'accord.
Professeur Haddad, cardiologue.
Voilà, en quelques minutes, donc je dirais donc c'est la période de l'aide, c'est une période très sensible parce qu'on va transiter donc d'une période, on a deux repas, donc une période de jeûne prolongée. Donc souvent, il y a un passage brutal, donc à une alimentation riche et abondante, et ceci donc risque donc de donner des problèmes.
On peut adoucir cette transition, le
bien
passage.
Bien sûr, c'est clair. Donc les conseils donnés, donc c'est ne pas trop manger, pas abuser. Donc il y a pas d'interdiction. Donc c'est une fête traditionnelle, conviviale. Il faut en profiter, c'est clair, mais pas au détriment de sa santé.
Les cafés,
je vous
les
dis
thés.
Pas. Voilà, l'été, les cafés, pas en excès. Donc, il faut pas en consommer à chaque visite familiale. Donc, l'Eid, donc c'est des visites familiales. Ne pas manger des gâteaux à chaque visite familiale aussi. Donc, goûter donc un gâteau et ne pas manger une assiette. Les boissons sucrées, faire très attention. Dès que vous êtes obligé de consommer, prenez beaucoup d'eau. D'accord. Donc, laissez les boissons sucrées occasionnellement. Donc, une fois, on va dire. Les excitants, ça risque de donner des pics... voilà, tensionnel, des crises de palpitations chez les hypertendus aussi, donc il faut faire attention, il ne faut pas consommer abondamment, manger lentement pour stimuler les centres de satiété, comme a dit Dr Boudoucha, sinon on aura tendance à en consommer sans se rendre compte.
Le premier jour de l'Aïd, par exemple, professeur Haddad, est-ce qu'il faudra manger comme on a l'habitude de manger pendant Ramadan, donc shorba, deuxième plat, salade?
Non, pas du tout. Il vaut mieux commencer idéalement sa journée par un petit déj, on va dire, équilibré, léger. Laissez les gâteaux, donc vous avez tout
après
le temps.
Repas, hein,
voilà, après les repas, vous avez tout le temps pour en manger. Donc, comme j'ai dit, un gâteau et non pas une assiette. Les boissons, il vaut mieux s'hydrater par de l'eau et marcher. D'accord, marcher aussi, hein. Et il vaut mieux faire cette transition d'une façon progressive. C'est la transition brutale qui est à l'origine des soucis de santé.
Alors, mesdames, je voudrais vous faire réagir sur deux points qui sont très, très importants.
Oui.
Le premier, c'est les boissons énergisantes.
Oui.
Nous voyons des enfants aller acheter eux-mêmes ces boissons. Oui. Près de leur maman. Et les mamans ne réagissent pas. Le deuxième point, puisque nous sommes toujours Firmdan, il y a des gens qui mangent la shorba ou la harira, vont faire leur salade de tarawih et prendre le deuxième plat après, comme un dîner, carrément. Qu'est-ce que vous en pensez?
Vous savez, la salade de tarawih, c'est en quelque sorte, c'est une partie d'activité physique.
Oui.
Donc, on dit que salade de tarawih, c'est bien. C'est-à-dire, du moment, vous savez, l'activité physique au mois de Ramadan, il est recommandé de ne pas la faire la journée, il risque d'hypoglycémie certains. Et ça, c'est une activité physique, je dirais.
Tout est bien régi.
Il n'y a pas de problème. Hein. Donc, manger léger,
donc
faire
couper
une activité,
le repas en deux,
c'est une très bonne chose.
C'est pas méchant, c'est au contraire, c'est bon.
Oui.
Et les boissons énergisantes.
Ah non,
c'est un fléau et c'est à bannir.
Ah, vous êtes en train d'empoisonner vos enfants sans vous en rendre compte. Donc,
pourquoi empoisonner? Qu'est-ce que nous fait cette boisson énergisante? Quel est son impact sur le cœur?
On a signalé
des arrêts cardiaques pour des enfants.
Voilà, vous savez, c'est des excitants, donc ça accélère le rythme cardiaque. On ne sait pas des fois l'état de santé de l'enfant lui-même.
Exactement.
Qu'est-ce qu'il a? Vous savez, on a des fois des morts subites chez des enfants qui ne sont pas connus comme étant cardiopathes.
Et qui ne s'expliquent pas.
Qui ne s'expliquent pas.
Malheureusement.
Donc je dirais les fruits. Donc c'est
et les protéines pour les gens qui pratiquent du sport, ils peuvent prendre. Parce que généralement, ces enfants, soit ils prennent ça en période d'examen, pour essayer de d'avoir de l'énergie, ou bien c'est les sportifs, c'est les tendances d'avoir des produits hyper énergétiques pour le sport. Voilà.
Mesdames, je suis honorée de vous recevoir sur ce plateau de Carnet de Ramadan. Merci pour toutes ces informations. Il n'est jamais trop tard pour s'initier à la bonne alimentation.
Bien sûr, c'est une
éducation qui doit se faire tout au long de notre vie.
Bien sûr.
Merci l'enfance.
Exactement. Voilà. Merci beaucoup.
Et ça a aidé Madame Bouchaïa.
Merci.
Au revoir.
De 11h à midi sur Radio Alger Chaîne 3.